se fait perdre, je sais pas, c'est sûr, pendant des jours et franchement, comment c'était perçu par les militants et en général, peut-être de s'effacer, ça ne se pas traditionnel d'un mouvement syndical français. La deuxième chose, c'est quand il y a eu la grande session, là, c'était trop. Comment il s'est réparti, enfin, comment se disputaient les. Comment c'était disputé les locaux, quoi. Comment c'était réparti.
Alors, sur la première question, en fait, la tradition des deux co-secrétaires, elle a perduré même après le départ des gens de FO. Il y a eu jusqu'en 54, je crois, deux secrétaires généraux. En maintenant, c'était un peu une fiction, mais la CGT, donc une fois partie des gens de FO, a maintenu le principe d'une parité à son bureau confédéral, celle qu'il y avait avant entre les gens de FO, enfin, la tendance force ouvrière et la tendance unitaire, on a maintenu une parité au bureau confédéral entre des communistes et des non-communistes. Alors, c'était un petit peu une fiction, parce que c'est le cœur du pouvoir, il était quand même plutôt dans la partie des communistes. Mais on a maintenu aussi le co-secrétariat général, et ça a été tenu pendant un moment par un type qui venait de chez les confédérés, qui s'appelait Alain Leléap, qui avait été secrétaire de la Fédération des fonctionnaires, et qui est resté co-secrétaire avec Frachon. Bon, il va de soi que la personnalité de Frachon écrasait un peu tout et que le Léap n'a pas joué un rôle très considérable, sinon qu'il était présent au mouvement de la paix, enfin, il avait des tâches de représentation pour la CGT assez importantes, et que, bon, il a quitté après 56 parce qu'il a désapprouvé l'intervention en Hongrie. Enfin bon, ça prouve qu'il n'était pas entièrement non plus assimilé au communisme. Alors, la perception que ça avait pendant la période joue au Frachon, plutôt bien, ça offrait la garantie d'une organisation unie avec deux grandes figures du mouvement ouvrier. Jouot, qui était très connu hein, à cette époque-là, il a été le président du Conseil économique et social en 1946, il a même eu en 1954 le prix Nobel de la paix. Donc c'était une grande personnalité du mouvement syndical, il avait représenté la France à la SDN pendant l'entre-deux-guerres, et il était vraiment la figure du syndicalisme réformiste. Et Frachon, bon, c'était le leader communiste. Résistant aussi, qui portait quand même, dont on savait, tout le monde savait qu'il était assez en délicatesse avec Maurice Thorez, qui avait passé la guerre à Moscou. Alors que lui, il a été clandestin pendant toute la période et qu'il n'a pas attendu en plus le juin 41 pour participer aux activités de résistance. Donc Frachon avait une image aussi assez forte. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu d'enquête ou de questionnement spécifique là-dessus auprès des gens, mais je pense que. Ça ne choquait pas et ça posait pas de problème. Alors après, c'est tombé en désuétude, cette double casquette. C'est vrai que c'est pas dans la tradition, mais après tout, ça visait à répondre quand même à une question du moment. C'était l'unité de la CGT. Et l'unité, la façon la plus symbolique qu'on avait de l'exprimer, c'était d'avoir, à égalité de dignité, un représentant de chaque tendance, quoi. Donc je crois que c'est ça le symbole, et ça a relativement fonctionné. Alors, l'autre question, c'était... les locaux, c'est très simple. Hein. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Hein. Les locaux de la rue de Lafayette sont restés à la CGT, à Frachon, etc. Mais, par exemple, on m'a raconté que le bureau qu'occupait Botreau, par exemple, quand il était à la rue de Lafayette, a été laissé vide pendant des années. On laissait le bureau vide parce que pouvait revenir. Il y avait quand même cette idée, là, notamment Frachon cultivait beaucoup cette idée-là. Hein, on a, par exemple, le journal Le Peuple, qui était un peu le journal officiel de la CGT, on a toujours, ce qui était traditionnellement occupé par un confédéré, on a laissé ce poste aux réformistes de la CGT, en disant, bon, mais ça, c'est d'une certaine manière, c'est le poste des réformistes. Quand ils reviendront, ils retrouveront leur poste au peuple, quoi. Hein, il y avait quand même cette idée quelque part qu'on traversait une mauvaise passe, mais que la grande CGT restait quand même le modèle et qu'on y reviendrait.
Je veux dire, ça s'est fait tranquillement, donc.
Tranquillement, c'est-à-dire que les gens de FO, ils ont dû tout reconstituer à partir de zéro.
Il
n'y
a pas eu de bataille rangée pour s'approprier les locaux.
Non, alors dans les UD, ça a été plus compliqué. Dans les unions départementales, ça a été plus compliqué. Parce qu'il y a des endroits, mais FO était très peu majoritaire dans les unions départementales. Donc là, après, il a fallu organiser des bourses du travail séparées, des choses comme ça. Il y a eu des endroits où ça a été assez douloureux. Il y a eu du baston un peu à certains lieux. Sur le port de Marseille, par exemple, il y a eu des endroits quand même, il y a eu un peu de violence dans les relations entre les deux. Mais bon, c'était minoritaire. Hein. Dans l'ensemble, ça s'est fait comme, comme s'est fait la séparation entre les syndicats américains il y a 4-5 ans, au moment de la scission de la FLCIO, où ils se sont répartis les locaux. Alors il y a des endroits, l'Union locale de Saint-Nazaire, il y a quand même deux ascenseurs. Hein, on peut monter dans les étages, soit par un côté, soit par l'autre. Donc FO monte par un ascenseur et la CGT par l'autre. Hein, ils ne se croisent pas. Bon. Mais on avait mis deux ascenseurs pour éviter les tensions. Voilà, donc au prix d'aménagement de ce type-là, on est arrivé à peu près à sauvegarder la dignité de tout le monde. Mais bon, FO est parti de zéro quand on dit les Américains les ont aidés, etc. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils partaient de zéro, avec très peu d'adhérents. Alors ils ont eu un déblocage des fonds qui avaient été confisqués pendant la guerre, qui leur a donné un petit peu de... Mais l'argent des Américains, il est allé un peu à tout le monde. Hein. Il y en a eu aussi au moment où la CGT était unifiée, jusqu'en 46-47. Il y a eu de l'argent américain à la CGT, c'est Renault d'ailleurs pour les unitaires qui assistait à ça, donc ça choquait pas comme ça peut choquer avec le recul, quand on dit la CIA, oui la CIA, bon, enfin il faut savoir aussi que la CIA, elle a été dans ces périodes-là constituée pour beaucoup avec les syndicalistes américains, il y avait une interpénétration entre les deux qui était assez forte, et donc c'est pas étonnant que le financement des services américains soit passé par les syndicats. Il y avait une relative collusion entre l'AFL de l'époque et les services américains.
Devant une telle fragmentation, un émiettement, et finalement, au cours de ces 30 dernières années, souvent une menace de disparition, est-ce qu'on n'a aucun espoir de réunification, au moins partielle? Parce qu'à terme, ça signifie la fin du syndicalisme. Si on continue à se séparer, à se tirer dans les pattes les uns les autres en devenant de plus en plus petits,
C'est la fin possible d'un type de syndicalisme, pas forcément du syndicalisme, parce qu'après tout, aujourd'hui, on a des syndicats qui sont éclatés dans les boîtes, etc., et puis ils peuvent continuer très longtemps, parce que là où ils sont, ils rendent des services aux salariés. Donc ça, ils auront la légitimité suffisante pour continuer. La question, c'est de savoir si on n'est pas rentré dans une phase d'inversion dans la construction des grands ensembles confédéraux, puisque si on regarde l'histoire du mouvement syndical, il se constitue par un croisement de deux processus. L'un qui est un processus agrégatif, qui vient du bas, des entreprises, des métiers, etc., de gens qui se regroupent pour faire nombre, pour se défendre par rapport au patron, qui s'organisent en fédérations, et les fédérations se rassemblent entre elles pour faire une confédération, donc un mouvement que les anglo-saxons appellent « bottom-up », un mouvement remontant. Et je dis que ça se croise avec un autre mouvement, qui est un mouvement descendant, lui, qui est inscrit dans le mouvement des idées. C'est-à-dire que cette agrégation, elle ne se fait pas uniquement sur des intérêts corporatifs, elle se fait aussi avec des grandes idées de référence. Le socialisme, sous toutes les déclinaisons qu'elle a pu avoir, ou d'ailleurs l'idéologie catholique sociale, qui a aussi structuré du syndicalisme. Donc il faut aussi des grands repères idéologiques pour constituer des grands ensembles confédéraux. Donc ça, toute la première phase de l'histoire du syndicalisme, et dans tous les pays c'est à peu près pareil, on voit ce mouvement remontant. Et aujourd'hui, on peut se demander si on n'est pas dans un mouvement redescendant avec cette tentation, et c'est vrai en plus que la logique de la représentativité qui vient d'être décidée, elle a un peu cet inconvénient parce qu'elle fait tout partir de l'entreprise. Et d'une certaine manière, la crainte, c'est qu'on peut avoir un système où les syndicats fonctionnent dans l'entreprise et où on a du mal à étayer la construction au-dessus. Parce que pour fédérer, pour être représentatif dans une branche, il faut représenter au moins 8%. Mais ceux qui ne les représenteront pas, ils peuvent se contenter d'être dans leur entreprise. Et là, bon, encore une fois, ils seront utiles aux salariés de l'entreprise. Mais ça sera un syndicaliste qui ne sera plus un acteur social. Ça sera un acteur de l'entreprise. Ou de la localité.
Un comité mais... d'entreprise,
voilà, un peu étendu. Et là, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque. Et en effet, c'est pour ça que la question est fondée, de savoir est-ce qu'on va vers une recomposition, appelons-la autrement, parce que le terme de recomposition est un peu connoté maintenant, mais vers des transformations dans la morphologie syndicale. Comment enrayer ce processus d'émiettement? C'est un peu ça le problème. Alors, il faudra le nouveau système de règles. J'avais dit qu'on ferait une séance là-dessus, sur les règles sociales, parce qu'elles ont, accompagné ce mouvement de scission. Hein, vous savez qu'on a un système de représentation à la proportionnelle, dans les entreprises, etc. Donc, et puis, au fond, comme n'importe qui pouvait... vous étiez tout petit, vous avez le droit d'exister dans l'entreprise, vous aviez accès aux droits syndicaux, aux panneaux d'affichage, à la négociation collective. Vous étiez tout petit, ça fait rien, vous pouviez valider des accords. Bon... c'est ce système-là qui est un peu terminé. Je ne suis pas sûr que ce système ait beaucoup valorisé l'action syndicale. Il a eu des inconvénients énormes. Il a permis cet émiettement. On a vu partout le développement de la CFTC, par exemple, que, bon, il y a une trentaine d'années, tout le monde la voyait mourir. La CFTC, on voyait tous ces tenants de la CFTC, ils avaient 50 ans et plus. On s'est dit, bon, quand ceux-là seront à la retraite, la CFTC, c'est fini. Ben non. Elle a retrouvé, avec le développement de la négociation d'entreprise, elle a retrouvé une légitimité. C'est-à-dire que les employeurs allaient, au besoin, solliciter la CFTC. Ou alors, des gens voulaient faire du syndicalisme. Ils ne voulaient pas se rattacher à une confédération. La CFTC est assez discrète pour qu'on puisse être CFTC dans sa boîte et que personne vienne vous emmerder. Donc je pense que le risque, là, ce n'est plus un risque d'émiettement, ça s'est fait. C'est un risque d'atomisation. D'avoir un syndicalisme pulvérisé dans les entreprises, mais sans la capacité d'agrégation que représente un mouvement confédéré. Alors le risque est compensé en France par la possibilité de ces mouvements sociaux, hein, qui sont justement la sortie du nez du guidon, les gens vont. Mais on a appris aussi quand même depuis 1995 que les mouvements sociaux ne renforçaient pas nécessairement le syndicalisme. Avant, oui, les grèves de 1936, les grèves de 1968 renforçaient le syndicalisme, ont toujours renforcé le syndicalisme. Depuis 1995, on a des mouvements sociaux auxquels appellent les syndicats, auxquels répondent les salariés, mais ils ne rejoignent pas pour autant les syndicats. Et là, il y a un vrai problème. Donc les mouvements sociaux, c'est une ressource, mais elle n'est pas mécanique. Il faut quand même que les syndicats trouvent moyen de se réancrer parmi les salariés, et ça, c'est aussi des choix stratégiques de leur part. Et la question de penser les alliances, c'est un truc qu'ils ne savent pas très bien faire. Alors, les syndicats ont quand même des capacités au compromis, ils se signent beaucoup d'accords quand même dans les entreprises, mais c'est des compromis, ça, ils sont capables de les nouer avec les employeurs, mais alors, entre eux, ça devient extrêmement compliqué. La période actuelle est un contre-exemple. Et c'est une relative innovation. Ils ont réussi à se mettre d'accord à 8, tout le monde, alors qu'il y a des contentieux entre eux qui sont énormes. Mettre la CFDT et Solidaire dans la même salle, c'était pas gagné d'avance. Et FO avec tous les autres, c'était pas gagné d'avance non plus. Donc là, il s'est passé quelque chose. Et les syndicats se sont mis d'accord, en plus, sur une plateforme qui n'est pas non au CPE. C'est un programme en 5 points avec une contre-politique de relance, etc. Donc un programme qui a du sens. Donc là, on est dans une période un petit peu nouvelle. Alors ça, plus les nouveaux critères qui obligent quand même à faire le tri, quoi. On peut imaginer qu'il y a des dynamiques qui se mettent en place. Ça se fera plus par la base, je pense, que par les grands mouvements. Ce que je disais aujourd'hui, c'est vrai que le scénario d'une fusion entre la CGT et FO, il n'y a pas grand monde qui est capable de le tenir. Personne n'y croit. La CGT n'y croit pas. Et FO, surtout, sauf ça. Et en même temps...
Est-ce que ça aura un intérêt, en même temps ? Est-ce que ça changera beaucoup les choses ? Parce qu'à la limite, le gouvernement, il a plus intérêt à garder FO qui est plus...
le gouvernement, oui, il a intérêt.
Plus conciliant à la tête, tout en haut de la Confédération, que la CGT qui est... Si FO meurt parce que tu fais des nouvelles représentatives syndicales, peut-être qu'il risque de se passer que la CGC, FO et la CFTC sautent.
Enfin,
en même temps, c'est pas très intéressant pour le gouvernement d'avoir plus que la CFDT et la CGT en
place. Oui, c'est vrai. Mais le risque, c'est qu'il y ait que la CGT et la CFDT telles qu'ils sont aujourd'hui qui restent. Parce que si, en bout de course, il reste que deux confédérations toujours aussi chétives, on n'aura quand même pas gagné grand-chose. Et même à supposer qu'on arrive à répartir les 8% de syndiqués qu'il y a dans ce pays dans 3-4 organisations au lieu de 8, on n'aura pas non plus gagné grand-chose. La question de fond, c'est comment on redéveloppe un courant de syndicalisation, comment casser la mécanique infernale des relations d'extériorité relative qu'il y a entre les salariés et les syndicats. La vraie question, elle est là. Mais je pense que quand même... La diversité syndicale et le tohu, enfin moi ce que j'avais appelé la guerre de tous contre tous, hein, qui était quand même le propre du champ syndical français, ne favorise pas la syndicalisation. D'ailleurs, quand on interroge les salariés sur pourquoi vous syndiquez pas, le premier truc qui sort, c'est par peur des représailles des employeurs, ce qui prouve d'ailleurs que le syndicalisme n'est pas accepté partout avec un bonheur partagé. Mais le deuxième item qui remonte, c'est la division syndicale. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je leur dis souvent, mais quand le syndicat va proposer l'adhésion à quelqu'un, il lui propose pas seulement d'adhérer à une idée, à une référence, il lui propose aussi de combattre celle de tous les autres. Et que ça fait beaucoup en même temps. Déjà, se syndiquer, bon, il faut trouver la bonne raison pour le faire. Mais si en plus, il faut épouser toutes les querelles que ce syndicat a avec tous les autres, ça devient lourd à porter. Hein, pour soi, puis par rapport aux collègues, etc. Donc, je pense qu'il y a un frein. Mais ça ne règle pas tout. Il ne faut pas croire que ça réglerait grand-chose. Mais je pense qu'à certains endroits, l'affichage d'une unité, d'un axe, par exemple, pour vous lâcher un scoop, va être annoncé un accord de relations privilégiées entre la CGT et la FSU. Je pense que ça fait sens quand même quelque part, cette idée que les syndicats sont capables de s'accorder. Vous savez, les syndicats italiens, ils ont à peu près les mêmes divergences, le même champ de divergence que les syndicats français. Il y a l'équivalent de FO, il y a l'équivalent de la CFDT, il y a l'équivalent de la CGT. Et pourtant, les Italiens, ils ont quand même un taux de syndicalisation beaucoup plus élevé, bon, pour des tas de raisons, mais il y en a au moins une qui est qu'ils privilégient toujours les points qu'ils ont en commun. Ils ont des grosses divergences. Ils ont à peu près les mêmes, d'ailleurs, qu'il y a en France. Mais ils ont toujours, toujours privilégié l'unité. C'est-à-dire, on met d'abord en face ce qui rassemble. Et quand le pouvoir politique demande à voir les syndicats, il les voit tous. Hein, il n'y a pas ce petit jeu de les voir séparément pour voir... Ah ben si lui, je lui donne 5 balles, peut-être qu'il ne va pas m'emmerder sur tel truc. Négocier un échange ici du genre, tu signes mon accord UNEDIC, sinon je te coupe les robinets de financement public. Parce que ça existe, hein, ce genre d'arrangement. Bon. L'État est maître du jeu. Hein. En Italie, l'État n'est pas maître du jeu dans ce genre de cas. Parce qu'il n'y a pas un syndicat qui va voir les employeurs ou le gouvernement sans qu'il y ait une concertation préalable entre les syndicats. Et il commence par défendre toujours les points qu'ils ont en commun. Puis après, ben, y a des moments où il y a des tensions fortes. Il y a eu des grèves là, en ce moment. La CGIL est dans un mouvement de grève qui n'est pas suivi par les autres. Et la CGIL proteste contre un accord qui a été signé par les autres syndicats. Il y a des moments où les divergences doivent s'exprimer, parce qu'il faut aussi que les salariés soient arbitres de ces divergences. Ce n'est pas des querelles de bureaucratie. Hein. Il y a des vraies divergences. Il y a des façons de voir le monde social différentes. Et il est légitime qu'elles traversent le champ syndical. Et il faut que ça soit public. Il ne faut pas qu'il y ait des bureaucraties qui s'arrangent leurs petits accords, les masquons de nos divergences, etc. Mais il faut qu'ils arrivent à les gérer autrement qu'à coups d'exclusifs, comme ils le font, comme ils l'ont fait jusqu'ici. Et là, je crois qu'il se passe quand même quelque chose sur ce plan-là. C'est relativement inhabituel d'avoir les configurations qu'on rencontre en ce moment.
Où ça, hein? À Nice.
Quelle usine?
SKF.
SKF, oui.
Donc à Nice, en Bresse aussi. Donc.
Oui.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, bon, des études ont été menées là-dessus, c'est là parce qu'il y a un émiettement des confédérations syndicales et même des fédérations syndicales que les travailleurs sont moins bien défendus. Il y a eu des comparaisons qui ont été faites avec des pays où il n'y a qu'un seul syndicat, la Grande-Bretagne, la Norvège, etc. Et bien, ils sont bien souvent moins bien lotis qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, les syndicats se font un petit peu concurrence sur la combativité. Et pour être élu, il faut être plus combatif, il faut gagner surtout, pas être que combatif. Donc du coup, on gagne un petit peu plus ici et là, et un petit peu plus aussi globalement. Et donc la question, c'était la grève qui a été causée par Lacoste, l'ancien CGTiste, là, finalement, dans les mines, est-ce qu'elle a été victorieuse ou pas ?
Non, ça a été... à peu près total, des mineurs qui sont rentrés au boulot, ça a été très dur, les suites ont été très dures à gérer, c'était un échec syndical, ça arrive, mais, non, ça a cassé d'ailleurs, hein, une dynamique sociale, les grèves de 48, ça a résonné très fort, hein, ça a été un vrai affrontement, et il y a des affrontements qu'on gagne, et par exemple les mineurs en 63, ils ont gagné, c'est clair. Mais en 48, ils ont perdu.
Ils ont perdu
quoi, quoi? Alors, je ne sais plus le détail des décrets Lacoste, mais ils revenaient sur le statut du mineur, sur des produits. Mais c'était des histoires de pause, savoir qu'est-ce qu'on intégrait dans le temps de travail, etc. Enfin, c'était assez technique, mais ça présentait un recul, en tout cas, de leurs conditions de travail. Assez perçu partout, hein, parce que le mouvement a été très, très soutenu, au moins au départ. Après, quand ça a pris des tournures violentes, évidemment, ça... Ça s'est un peu effiloché, mais c'était un vrai mouvement de masse, quoi.
voulais savoir s'il y avait une nouvelle démarche de différents syndicats pour justement conquérir des secteurs d'activité dans lesquels, des métiers dans lesquels ils ne sont pas implantés historiquement. Ou est-ce qu'ils restent sur les bastions, par métallurgie, fonction publique et globalement grandes entreprises?
Bah, métallurgie, oui, c'est un secteur traditionnel, mais aujourd'hui, toute force confondue, tout syndicat confondu, le taux de syndicalisation dans la métallurgie, c'est 3 à 4%. Donc c'est difficile de parler de bastion. Hein, pour... Alors c'est vrai que là où ils sont dans la métallurgie, c'est plutôt dans les entreprises donneurs d'or, peu dans la sous-traitance. Alors il y a des tentatives qui sont faites d'union syndicale, multiprofessionnelle, de travailler sur des bases élargies. Moi j'ai fait une enquête là-dessus à Saint-Nazaire, j'en ai déjà parlé. Sur le bassin des chantiers de l'Atlantique. Bon, on voit bien la CGT qui essaye de tenir tout ça avec la sous-traitance, l'intérim. Enfin, les employeurs ne restent pas inertes hein, face à ces tentatives-là. Les boîtes de sous-traitance, ce n'est pas toujours des PMU isolées. Contrairement à ce qu'on croit, la plupart, elles appartiennent à des groupes, notamment Suez, GDF, notamment Eiffage, enfin les grandes entreprises de services rendues à l'industrie. Donc, il y a des tentatives, on a fait aussi des études sur le bassin de Fos, dans la chimie, etc. Où, alors les syndicats, c'est principalement la CGT qui fait ça, parce que c'est principalement elle qui est implantée encore dans l'industrie. Mais il n'y a pas que dans l'industrie, il y a des recherches de redéploiement. On voit de l'activité syndicale, là ça passe pas seulement par la CGT, mais ça passe aussi par Solidaire, dans la restauration rapide, chez les intermittents du spectacle, dans différents secteurs, et aussi surtout dans le commerce. Il y a eu la grève dans les grands distributeurs alimentaires l'année dernière, était relativement nouvelle. Bon, là, il y a un syndicat dominant. Hein. Chez Carrefour, par exemple, c'est FO. Mais bon, sans dire de mal de personne, c'est un peu le syndicat de l'employeur. Quoi. Donc, la question pour les autres, c'est de se développer de manière un peu conflictuelle. Donc, il y a... ça, c'est un territoire quand même nouveau, difficile. Et c'est vrai que le nombre de salariés qu'on fait dans le commerce, ça ne remplace pas... les bassins sidérurgiques, hein, où les types ils étaient syndiqués par centaines. Donc c'est pour ça que le taux de syndicalisation ne bouge pas, mais ça ne veut pas dire que l'implantation des syndicats est inerte. Il y a quand même un redéploiement, il est largement insuffisant. Dans la santé, dans les services à la personne, etc., c'est peanuts le nombre de syndiqués, même dans le commerce d'ailleurs, hein, quand on voit ces 800 000 salariés, le commerce de détail, les syndicats là-dedans, c'est pas grand-chose. Mais bon, ils essayent.
Je voudrais savoir si l'actuel soutien de la CGT aux sans-papiers, ça représente un épiphénomène ou est-ce que c'est quelque chose...
Non, c'est important. C'est important dans l'histoire de la centrale qu'elle renoue avec ce type de conflictualité, notamment pour les travailleurs immigrés, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'épisode du début des années 80, je ne sais pas si vous avez vu, à la CNHI, il y avait Marius Apostolo, là, est mort l'année dernière. Il a rendu des documents, etc. Puis il y a eu une conférence le jour du lancement de l'exposition où j'ai été, je crois qu'il y avait quelques copains, Bertrand qui était, non ? Bon, Apostolo a été une des figures des luttes de l'immigration, d'abord à Marseille où il était, et puis quand il est monté chez Renault à Billancourt, et après à la Confédération. Mais après les clashs qu'il y a eu dans les années 82-83, il y a eu une nette prise de distance de la CGT avec l'immigration. Alors que dans la période antérieure, notamment avec les Espagnols ou avec les Italiens, il y avait des liaisons extrêmement fortes. En Lorraine, d'ailleurs, il suffit de voir les noms des dirigeants de la CGT en Lorraine ou dans le Nord, ils ont des noms italiens par palanquée. Moi, j'en ai interviewé plusieurs qui venaient de l'immigration italienne. Donc ça se faisait dans les années 50-60, la socialisation de l'immigration se faisait dans le syndicat, et dans la CGT en particulier. Mais dans les années 80, ça s'est sérieusement grippé. Et là, le fait de voir la CGT dans ces conflits, c'est bien le signe hein, d'une réimplantation dans des mobilisations de ce genre. Bon, il y a débat dans la CGT là-dessus. Hein. Il y a des secteurs qui sont moins enthousiastes que d'autres. Il faut que le mouvement se lance et puis les résistances seront emportées, comme des digues, dépassées par les flots. Ouais, c'est là où sont les immigrés, c'est là où sont les jeunes, c'est là où sont des tas de catégories qu'aujourd'hui la CGT a peine à à peine à rassembler. Parce qu'on dit souvent... Alors, c'est marrant, parce que les enquêtes d'opinion montrent que les jeunes, aujourd'hui, ont un regard sur les syndicats qui est beaucoup plus favorable que les 40, que les 35, 40, 50 ans. Il y a les anciens qui ont une bonne image des syndicats. Ça, c'est des effets de rémanence du temps où ils étaient puissants et où ils ramenaient des acquis sociaux. Et puis, il y a les jeunes qui trouvent qu'il y a un manque, quoi, qu'il se passe quelque chose, et donc ont une image des syndicats qui n'est pas mauvaise. Le problème, c'est que les syndicats sont incapables de transformer ça en syndicalisation. Et alors pourquoi ? Bon, alors peut-être qu'il y a des comportements bureaucratiques ici ou là qui ne font pas très envie, l'image du militant, de l'ouvrier métallurgiste masculin, etc. Bon, tout ça, c'est des modèles militants qui devraient être dépoussiérés, qui commencent un peu à l'être, mais je crois que fondamentalement, c'est parce que les syndicats ne sont pas organisés là où sont les jeunes. Il y a un débat là-dessus en ce moment dans la CGT. Les syndicats industriels, ils sont dans la maison mère, CDI. Hein. Alors ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce n'est pas toujours des stables, hein, parce que qui est stable aujourd'hui dans l'industrie, même maison mère. Hein. Mais enfin, en tout cas, dans tous les rayons qui travaillent autour où siège la précarité, où sont les jeunes, les syndicats, ils ont du mal à tenir. Alors, il y a des endroits, il ne faut pas se le cacher, où ils font aucun effort. On a fait une enquête chez EADS, là, chez Airbus. Alors, le type, il vous explique tranquillement. Bon, alors, je ne vais pas toujours mettre dans le coup et faux, mais moi, j'ai fait une session de formation avec les responsables du Grand Ouest et faux. Quand je leur parle de ça, je leur parle de la planète Mars, quoi. C'est pas... Bon. Il y a une version CGT que j'ai rencontrée aussi au chantier naval à Toulon. C'est, il faut qu'ils luttent. Bah oui, il faut lutter. On dit, oui, mais peut-être que ceux qui sont dans les entreprises les plus protégées, ils ont peut-être un devoir d'organiser les travailleurs. Il fut un temps, c'est ça qu'on appelait la solidarité de classe. On dit, oui, mais il faut que les camarades luttent. Nous, on a lutté pour nos acquis, il faut que les camarades luttent. Bon, ça, c'est la version lutte de classe du corporatisme d'entreprise. Bon. Enfin, discours lutte de classe, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas avares de discours lutte de classe. Quand on regarde les pratiques, évidemment, c'est un tout petit peu autre chose. Mais autrement, bon... Ils ont bien conscience que s'ils veulent toucher les jeunes, c'est en s'attaquant réellement à toute volonté de la précarité. Quoi. Elle est là, la ressource. Alors, oui, tu as raison, je pense que la lutte des sans-papiers, c'est aussi prendre pied dans l'intérim dans la sous-traitance, parce que dans le bâtiment, on sait très bien que ça marche beaucoup comme ça.
Je crois qu'on serait certains ici, il y a des mecs qui se sont toujours consacrés à l'ensemble des relations entre l'immigration et
oui, c'est vrai. Oui, oui, puis je vois quelqu'un qui pourrait faire ça en plus. Exact. Oui.
Je voudrais revenir sur la création de FO, 46-47. À mon avis, on ne crée pas un parti politique ou un syndicat comme ça, comme vous avez dit tout à l'heure, avec d'ailleurs très peu d'adhérents au départ. Il y avait des moyens financiers. Là, vous émettez des doutes sur le financement de l'EFO. C'était le début de la guerre froide. Ce qui s'est développé en France, ça n'a pas été qu'en France. Vous avez parlé aussi de l'Italie. Et ça a été aussi, il y a eu des ministres communistes en Italie, en Belgique. Il y a eu des élections, pareil, c'était le début de la guerre froide. Mais il y avait donc la cassure, cette scission du mouvement syndical, c'est-à-dire... mettre le mouvement syndical mondial à plat. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu aussi l'anéantissement du syndicalisme parmi les artistes, qui a donné naissance à Hollywood, avec toute la mafia mise à la tête. Donc c'est un problème international et c'était dans le cadre du début de la guerre froide. C'est pourquoi je pense qu'effectivement, Force ouvrière, au départ, a reçu certainement un certain nombre d'argent. Comme la CGT, les uns c'était les roubles, les autres c'était les dollars. C'était valable aussi pour les partis politiques. Là, pour venir aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, les syndicats, bien sûr qu'il faut des syndicats. Et s'il y a un tel affaiblissement du mouvement syndical, vous parlez des jeunes aussi, les jeunes ne se retrouvent pas, ni dans les partis politiques actuels, droite ou gauche, ne se retrouvent pas non plus dans les syndicats. Déjà de par un manque de démocratie totale. Pourquoi ? Parce que c'est paralydal. Je parle des 5 syndicats, le 6e avec l'UNSA, qui doit fusionner avec la CGC. Donc, ce manque de démocratie, ce n'est plus possible. Là, on voit, chaque jour qui passe, il y a des prises de conscience mais extraordinaires de la part des travailleurs en France. J'entendais l'autre jour aux informations sur France Culture, justement, dans le cadre de cette prise de conscience, je dirais, la lutte des travailleurs dans les entreprises. Là, par exemple, les bureaux confédéraux ont décidé, d'ailleurs, il y en a eu 5 qui ont été reçus là par Sarkozy, tout à fait par hasard, hein, les partenaires sociaux, comme on dit si bien. Alors, les partenaires sociaux, les bureaux confédéraux, décident là qu'on va aller se promener le 29 janvier, le 19 mars, et on va remettre ça pour le 1er mai. Et là, on s'aperçoit, enfin, pour ceux qui veulent s'en apercevoir, que dans les entreprises, là, les salariés ne marchent plus. Et alors, en tête, évidemment, les syndicalistes. Et c'est justement cette démocratie qu'il faut créer. Et que ça parte, là, par exemple, les licenciements massifs. Il faut que les travailleurs, et c'est ce qui est en train de se produire, que les travailleurs disent « c'est nous qui décidons ». Mais aussi, par exemple, dans le cadre du chômage, dans le cadre des délocalisations, les entreprises peuvent tourner sans les patrons. On l'a vu, par exemple, la prise du pouvoir par les peuples, soit en Bolivie, soit au Venezuela, en Équateur, mais là aussi au Salvador dernièrement, et sur le Paraguay, sont les peuples qui ont décidé de ne plus crever de faim sur toutes les richesses dans leur sous-sol. Alors, je pense que c'est valable pour la France, c'est valable pour l'Europe, c'est valable pour le monde entier. Et je crois aussi, vous parliez tout à l'heure du prochain congrès de la CGT, alors bien sûr, je souhaite de tout cœur de se retrouver avec une CGT importante, un mouvement syndical important, mais pour ça, c'est plus possible avec les bureaux confédéraux, là. Il faut que ce soit une... J'emploie même pas une rénovation totale, hein. Mais et je dirais pas non plus une rénovation fondamentale. C'est-à-dire un autre syndicalisme. Alors, je prends l'exemple de Sud, c'est vrai que j'ai beaucoup de sympathie pour Sud. Vous avez parlé tout à l'heure de Sud avec, je crois, le lien justement avec les syndicats chrétiens à l'origine. Je ne sais pas si je m'as compris. Là, je me pose des questions parce que je croyais que Sud avait été créé avec des militants CFDT et quelques CGT aussi.
Habile transition avec la prochaine séance. On va pas entamer ça. Bon, sur le reste, c'est un peu un message d'espoir que vous lancez, au vu de ce qui se passe en Amérique du Sud, que les peuples se lèvent. Bon, en même temps, votre lecture sur les bureaux confédéraux, je suis qu'en partie d'accord, parce que, bon, s'il y avait de la bureaucratie qu'en haut, ça serait assez facile. Mais la bureaucratie, elle est à tous les étages dans le mouvement syndical. Et, à la limite, elle est parfois un peu moins en haut qu'aux étages intermédiaires. Les bureaux, c'est assez compliqué, parce que vous dites c'est pyramidal, par exemple. Moi, j'ai été frappé en découvrant, au fur et à mesure de mon travail, comment fonctionnait la CGT. Il n'y a rien de moins pyramidal que la CGT. J'ai passé 20 et quelques années dans la CFDT, je sais comment marche la CFDT. Il y a effectivement un centre, une légitimité qui est produite et qui descend. Dans la CGT, il n'y a pas grand-chose qui descend. C'est une organisation extrêmement décentralisée. Les syndicats font à peu près ce qu'ils veulent dans les boîtes, quoi que pensent et disent leur fédération, et la fédération, elle fait absolument ce qu'elle veut, quoi qu'en dise la confédération. Quand il y a des conflits entre des fédérations, il y en a en ce moment, sur des territoires de syndicalisation, par exemple. La fédération de l'équipement n'accepte pas que les agents de l'équipement soient mis à disposition des collectivités territoriales. Bon. Est-ce qu'elle est vraiment, elle est demandée d'ailleurs aux agents ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est vraiment très raisonnable de véhiculer cette idée selon laquelle la territoriale serait de l'infamie et que seule la fonction publique de l'État est revêtue de la dignité de l'État de fonctionnaire? Bon, ça c'est encore une autre discussion. Mais du coup, elle s'indique dans les collectivités territoriales. La Fédération des services publics de la CGT s'en offusque. Ça se règle devant des tribunaux, entre deux fédérations de la CGT. Enfin, ça se règle dans les tribunaux, c'est-à-dire que ça ne se règle pas, parce que ce n'est pas une question juridique, évidemment. Bon. C'est une question politique. La Confédération n'a aucun pouvoir d'arbitrage. Aucun. Elle assiste à ça et à d'autres. On pourrait en citer d'autres. Et elle n'a aucun pouvoir d'arbitrage sur ces conflits-là. La Confédération à la CGT, c'est, moi je leur dis souvent en amusant, au fond, la verticalité de la CGT, elle n'a jamais été induite par le fonctionnement de la CGT. Elle était liée au fait que tous ses responsables appartenaient au Parti communiste français, qui lui-même est régi par le principe du centralisme démocratique. A été. C'est-à-dire, lui, il avait une logique effectivement assez descendante. Donc la CGT donnait cette impression-là, parce que son corps militant fonctionnait de cette manière. Mais une fois coupée la relation avec le Parti communiste, il n'y a plus de verticalité. Et on se rend compte qu'on a là-dessous les statuts et le fonctionnement de la CGT syndicaliste révolutionnaire, qui, elle, avait des principes de fonctionnement, c'est d'ailleurs les statuts de 1902, extrêmement libéral. Je leur dis, au fond, vous êtes l'organisation la plus libérale qu'on puisse trouver dans le champ syndical, avec peut-être FO, qui est encore plus décentralisé que la CGT. Ce sont des organisations où le fédéralisme est compris comme « je fais ce que je veux chez moi ». Et au besoin, ils rajoutent, et je vous emmerde d'ailleurs, parce qu'il y a des décisions qui ne s'appliquent jamais. Par exemple, la CGT a décidé de quitter la FSM en 1995, la Fédération syndicale mondiale, c'est-à-dire ce qui reste du soviétisme, enfin qui en même temps maintenant s'est recyclé avec les syndicats des pays islamiques. Et bien, il y a une fédération de la CGT qui est encore adhérente de la FSM. Et son secrétaire général, il est vice-président de la FSM. Il y a une décision du congrès de la CGT qui a dit que la CGT quitte la FSM. Et il y a une autre fédération, celle du bâtiment, maintenant c'est réglé parce qu'il y a eu un changement d'équipe à l'intérieur. Ils ont été très longtemps, la fédération de la chimie aussi d'ailleurs, entretient encore des relations avec la FSM. Alors, cette image d'une CGT centralisée, très franchement, quand vous la voyez marcher de l'intérieur, c'est à mourir de rire. Parce que des fois, ça vire au bordel. Ils ont essayé de réformer leur système de cotisation. Parce que vous savez comment ça marche, les cotisations à la CGT. Vous êtes dans votre syndicat, vous payez vos cotisations au syndicat, et après le syndicat, il donnait, maintenant ça a changé, il donnait une partie à l'UD, l'Union départementale, il donnait une partie de cotisation à l'Union locale, il donnait une partie de sa cotisation à la Fédération, et il donnait une partie à la Confédération. À ceci près que si dans cet impressionnant lot de destinataires, il y en a un qui ne lui plaisait pas, il ne lui payait pas de cotisation. Et personne ne trouvait rien à redire. Au congrès de, pas au dernier qui était en 2006, au congrès précédent qui était en 2003, ils ont arrêté de publier la ventilation des cotisations. Alors, il y a des chercheurs qui ont hurlé au scandale en disant « Ouais, à nouveau la culture du secret ». Moi, je suis allé faire ma petite enquête, ils m'ont dit « Bah, c'est pas ça, c'est que aujourd'hui, on a trois quarts des cotisants qui ne cotisent pas partout. Ceux qui cotisent dans leur fédération ne cotisent pas à l'UD, et ceux qui cotisent à l'UD ne cotisent pas à la fédération. » Et trois quarts des adhérents étaient dans ce cas-là. Dites, mais alors, comment vous faites? D'abord, quand on leur demande combien ils ont d'adhérents et qu'ils vous disent qu'ils ne savent pas, c'est vrai, ils ne savent pas. Et d'ailleurs, c'est quoi un adhérent? Est-ce que c'est quelqu'un qui paye partout? Est-ce que c'est un... À partir du moment où il a payé là, est-ce qu'on considère qu'il est adhérent? C'est un bordel, mais vous ne pouvez pas savoir. Alors, ils ont proposé une réforme des cotisations assez simple, qui était, bah, écoutez, il y a un organe confédéral qui va reprendre toutes les cotisations, puis qu'il les distribue à tout le monde. Comme ça, on est sûr que tout le monde est servi. Toutes les structures seront servies, et ça ne sera pas à la tête du client. Il y avait de la rétention à tous les étages, enfin, c'était constant. Il a fallu trois congrès pour faire passer ça. Et au troisième, bon, ça va, le truc a été adopté à 65% des voix. Mais au deuxième congrès qui a traité de ça, l'accord avec la réforme des cotisations est passé avec 52% des voix. Et la Confédération est montée à la tribune en disant... C'est pas assez pour qu'on le mette en place. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de gens qui comprennent la logique, qui s'y engagent. 52%, on va à la catastrophe, donc on l'applique pas. On reposera la question au congrès suivant. Et là, ils ont fini par l'adopter au dernier congrès. Et maintenant, 95% des syndicats sont passés dans le système. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur d'une centralisation. Si toutes les cotisations remontent à la Confédération, on donne du pouvoir à la Confédération. Et le système, c'est ce qui se passe à la CFDT d'ailleurs, parce que c'est effectivement la Confédération qui gère la répartition du fric. Mais pas à la CGT, ils ont été obligés de monter un système avec une commission spéciale représentant des UD, des FED, des syndicats, etc., déconnectée de la direction confédérale, et qui gère le système de cotisation pour bien signifier que c'est pas la Confédération qui répartit l'argent, c'est un organisme spécifique. Il y a une sensibilité qui, à mon avis, appartient bien à la racine syndicaliste révolutionnaire, même dans la CGT, qui a eu 50 ans de culture communiste, elle demeure, malgré tout, très inspirée des principes décentralisateurs du mouvement ouvrier français. Et ce n'est pas une organisation si centralisée que ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la réflexion la plus avancée sur les transformations nécessaires de la CGT, elles sont au sommet. Et il y a les plus grandes difficultés à le faire partager par les organismes intermédiaires, notamment les frontières des fédérations qui appartiennent aussi, qui sont du système économique il y a 30 ans. Le capitalisme, il bouge en permanence. conventions collectives, ça a été joyeusement malaxé par les patrons, les syndicats, ils sont toujours sur les mêmes champs fédéraux. Ça, c'est extrêmement difficile à bouger. Là, la Confédération, elle a une logique là-dessus. Mais elle n'a pour elle que la capacité à convaincre. Elle n'a aucun pouvoir statutaire d'imposer une réforme des champs fédéraux. Donc il faut dépenser de la salive pendant pas mal d'années pour arriver à faire bouger un tant soit peu les structures syndicales, même quand la Confédération est consciente qu'il faut bouger. C'est pour ça que je dis la bureaucratie, hélas, c'est un mal qui est très enraciné. Elle est dans les unions locales. Il y a des fois, c'est à hurler de rire, il y a des unions locales CGT qui sont là parce qu'elles étaient là il y a 30 ans, il n'y a plus d'entreprise sur le site, mais il y a toujours une union locale CGT. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de retraités dedans. Hein. Mais alors, l'union locale, elle tient congrès. Elle a un budget. Ils font quoi? On ne sait pas. La syndicalisation, c'est jamais à l'ordre du jour. Mais voilà, elle est là. Et puis, si ça se trouve, à une période, elle a mené des luttes. Elle a mené des luttes. Et donc, elle est parée d'une aura extraordinaire, cette UL, parce qu'elle a soutenu une lutte, etc. Ce qui est vrai, probablement vrai. Mais elle est tout, il n'y a plus rien derrière, mais l'UL, elle est toujours là.
Et
où est-elle
son budget, parce qu'il
n'y
a plus de cotisants?
Ah si, eux, ils peuvent avoir des cotisants, ils peuvent avoir des cotisants. Cela dit, attendez, ta question. Non, mais il y a un fonds d'organisation, hein. Il y a très peu d'UL qui ont une autonomie financière. Il y a un fonds de péréquation, le timbre, il y a un timbre par an qui est dans un fonds d'organisation. Et le fonds d'organisation subventionne un nombre de structures incroyables dans la CGT.
De temps en temps, il y a un appel. Moi, j'étais au temps CGT, je ne sais plus, je suis à FSU maintenant. Il y a souvent un appel à verser financièrement, en plus du timbre. On voit ça sur la carte, c'est déjà pré-imprimé sur la carte. Donc, quand on prend la carte, déjà, on paye.
Oui, le FNI, ça s'appelle, le Fonds National Interprofessionnel.
Un timbre beaucoup en début d'année.
Voilà, c'est ça. C'est le fonds de soutien. Et il va au fonds d'organisation, et c'est de ce fonds-là qu'on fait les péréquations. On soutient, mais par exemple, ça, c'est pas idiot comme logique, ça. Par exemple, ils aident la Fédération du Commerce à s'implanter, à se trouver, parce que par ses propres moyens, elle aurait du mal. Donc... Oui, c'est des fonds de solidarité, ça marche pas mal. Mais le fonds de solidarité, parfois, il soutient des structures. Mais s'il ne les soutenait pas, ça ferait un scandale.